Bonjour, je m'appelle Luc Trudeau. Je suis interniste à l'Hôpital général juif de Montréal et au cours de ma pratique, j'ai développé une expertise en diabète. Je suis également le premier vice-président de la Société des sciences vasculaires du Québec, dont la mission est de proposer un forum multidisciplinaire en santé vasculaire. C'est d'ailleurs dans le cadre de mon implication à la SSVQ que j'ai été mandaté pour présider un comité d'experts afin de développer un outil de protection cardiovasculaire diabète type 2, afin d'offrir une meilleure protection cardiovasculaire à un patient souffrant de diabète type 2 et à haut risque de maladie cardiovasculaire. C'est à partir de cet outil que nous avons décidé de vous proposer une série de 4 balados que vous pourrez également retrouver sur notre page YouTube et dont le but est de répondre à certaines questions qui nous sont posées régulièrement dans nos pratiques cliniques. J'ai donc le plaisir d'accueillir Dr. Eileen O'Meara, qui est cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal et membre du comité d'experts sur l'application en diabète de la SSVQ, avec qui nous discuterons de diabète et insuffisance cardiaque. Alors, Dr. O'Meara, y a-t-il une relation entre le diabète et l'insuffisance cardiaque?
Oui, évidemment, comme vous le savez, les diabétiques ont beaucoup de chances de développer de l'insuffisance cardiaque. Et parmi les comorbidités qui sont contrôlables, si on regarde une fois qu'on contrôle, par exemple, l'hémoglobine glycée, l'hypertension, même si on fait attention à la protéinurie, qu'on contrôle les lipides, on n'abolit pas le risque d'insuffisance cardiaque de façon significative, alors qu'on diminue les risques des autres événements cardiovasculaires, comme le syndrome coronarien aigu et l'AVC. Donc, je pense que c'est important de savoir ça, que les patients insuffisants cardiaques sont vraiment à risque aussi lorsqu'ils ont un diabète.
Alors, ceci est fort intéressant, mais pour le praticien, est-ce qu'il y a un ordre d'introduction de ces médicaments? On va tenter de tous les avoir, mais est-ce qu'il y en a un premier, un deuxième, un troisième et un quatrième?
En fait, on a voulu comme un peu, il n'y a pas tant d'évidence pour commencer un avant l'autre, bien que dans certaines recommandations, vous allez voir des articles qui peuvent parler que c'est préférable de débuter un ou l'autre. Mais ça dépend des comorbidités et de qui est votre patient, l'âge, la pression artérielle. La présence de diabète va effectivement peut-être nous faire commencer le SGLT2 inhibiteur avant de forcer l'accent sur, par exemple, l'antagonisme des récepteurs minéralocorticoïdes ou le changement d'un ISCA ARA vers l'ARNI. Et puis, c'est sûr qu'on ne peut pas tout commencer en même temps. Donc, on peut le faire aux 2 semaines. On peut en commencer 2 en même temps. Par exemple, on va avoir un diabétique qui a déjà son ISCA ARA. On ajoute le SGLT2 inhibiteur dans 2 semaines. Ou s'il est hospitalisé, on peut d'emblée commencer un bêta-bloqueur. Ou si c'est en externe, on peut le faire graduellement.
Est-ce que vous avez une recommandation quant au suivi des patients sur ces médications, c'est-à-dire une prise de sang et à quel intervalle?
Oui, donc c'est une bonne question. Effectivement, lorsqu'on commence un ISCA ou un ARA ou lorsqu'on fait le changement à l'ARNI, ou lorsqu'on ajoute un antagoniste de récepteur minéralocorticoïde, on va recommander de faire une prise de sang pour électrolyte créatinine 7 à 10 jours plus tard. On recommande de titrer la médication aux 2 à 4 semaines. Donc, ensuite de ça, on peut être prêt pour faire une autre titration. Pour ce qui est des bêta-bloqueurs, on recommande, surtout s'il y a des troubles de conduction à l'électro ou qu'on a une fréquence cardiaque qui est déjà pas très élevée, mais en haut de 60, on va faire un FCG 2 semaines après l'ajout d'un bêta-bloqueur. Quand les patients sont hospitalisés, c'est plus facile. On peut le faire immédiatement dans les jours suivants. Pour ce qui est du SGLT2 inhibiteur, alors ce qu'on sait, c'est qu'il y a une diminution du taux de filtration glomérulaire lorsqu'on commence la médication, qui n'est pas très importante en général, mais si la fonction rénale est plus basse, ça peut inquiéter si on fait un contrôle trop tôt. Alors, on peut le faire comme juste dans 4 à 6 semaines, le contrôle électrolyte créatinine. Et certains endocrinologues ne le font même pas, mais nos patients insuffisants cardiaques sont quand même un peu plus fragiles. Dans les études, normalement, on faisait quand même un contrôle.
Merci beaucoup pour votre réponse. Parfois, les praticiens sont confrontés au fait que leurs patients deviennent hypotendus avec ces médicaments. ou encore il pourrait présenter de l'hyperkaliémie. Quelle est votre approche à ce moment-là?
Dans les études, on demandait en général d'avoir une pression à 100 avant de commencer, par exemple, l'ARNI ou le GLT2 inhibiteur. On peut retenir 95 ou 100. C'est sûr que en fraction d'éjection a baissé en insuffisance cardiaque avec toute la médication. On a souvent des pressions qui sont à 90, 95. L'important, c'est que le patient n'est pas symptomatique, n'est pas à risque de chute, n'est pas très orthostatique ou hypotimique. Donc, ça va être plus ceux-là, les patients à qui faire attention. Et à ce moment-là, vous seriez mieux d'aller vers un GLT2 inhibiteur en premier que de faire le switch à l'ARNI qui est un peu plus hypotenseur. Mais avec un suivi aux 2 à 4 semaines, lorsqu'on fait la titration de l'ARNI, normalement, on peut réajuster. On a plusieurs doses possibles. Pour ce qui est de l'hyperkaliémie, ben c'est pas une inquiétude avec le GLT2 inhibiteur ou le bêta-bloqueur, mais ça peut être une inquiétude avec l'antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes, ISCA, ARA ou ARNI. Alors, c'est surtout pour les patients qui ont une insuffisance rénale avec un DFG plus près de 30 ou qui ont déjà un bêta-bloqueur qui sont diabétiques. On a montré que ceux-là sont plus à risque de faire des hyperkaliémies avec l'antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes. Maintenant, si vous avez un potassium qui est à 4,5 et qui passe à 5, ben, il ne faut pas faire une dépression. On peut peut-être faire un contrôle et faire des conseils sur la diète un peu moins riche en potassium. Et on a des documents dans les cliniques d'insuffisance cardiaque là-dessus. Et avec Google, maintenant, vous pouvez dire aux patients, regardez ce qui contient trop de potassium. Il faudrait éviter ou diminuer les quantités.
C'est très intéressant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a lieu de répéter l'échographie cardiaque une fois que le patient a un traitement stable?
Oui, donc si on revient à l'algorithme, et ça a été repris dans la nouvelle figure centrale des lignes directrices publiée en avril 2021 sur le traitement de l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection à 40% et moins. Donc, une fois qu'on a titré nos 4 médications de base, on peut regarder aussi selon les populations si on veut ajouter l'ivabradine en rythme sinusal avec une fréquence cardiaque à plus de 70 malgré une dose de bêta-bloqueur optimale. Si une hospitalisation récente malgré un excellent traitement médical avec les 4 médicaments, on peut considérer ajouter le vericiguat qui est un stimulateur de la guanylate cyclase, donc qui agit sur le GMP cyclique, qui est un vasodilatateur, qui a un intérêt, là, qui s'est démontré en 2020 dans l'étude de Victoria. Donc, vericiguat pour les patients de race noire qui ont déjà un bon traitement médical et qui sont encore symptomatiques de leur insuffisance cardiaque ou ceux qui sont incapables de tolérer ISCA, ARA ou ARNI, souvent pour des raisons de fonction rénale, on peut considérer la combinaison qui existe depuis de nombreuses années, hydralazine avec un nitrate à longue action. Et pour un patient en fibrillation auriculaire avec un contrôle de fréquence cardiaque suboptimale, qui a des symptômes malgré un traitement médical des 4 agents maximal, on peut considérer la digitale. Et là, on dit de titrer aux 2 à 4 semaines pour la dose maximale tolérée sur 3 à 6 mois. Et là, après 3 à 6 mois, on fait un contrôle de la fraction d'éjection, des symptômes et une évaluation clinique pour voir si notre patient a des signes et symptômes d'insuffisance cardiaque et si la fraction d'éjection demeure à 35% et moins. En classe fonctionnelle 1 à 4, on pourrait considérer une thérapie de resynchronisation pour les gens à QRS large et un défibrillateur pour les gens, donc fraction d'éjection 35 et moins, classe fonctionnelle 1 à 4.
Alors, c'est très bon là, comme réponse, mais disons que moi, je suis un médecin de première ligne et après les 4 médicaments de base, j'ai un peu de misère à m'y retrouver. Quand est-ce qu'on réfère à un spécialiste en insuffisance cardiaque?
Bien, excellent. Je suis tout à fait d'accord que lorsqu'on commence à penser à des thérapies auxquelles on n'est pas habitué, et on devrait s'habituer tout le monde aux 4 thérapies de base, mais effectivement, si vous, ça vous dit rien, le vericiguat, l'ivabradine, et que là, vous voyez que votre patient demeure avec pas mal de symptômes, bien, vous le référez en cardiologie. Si la fraction d'éjection de contrôle est en 35% et moins, malgré que votre patient a peu de symptômes ou pas de symptômes, référer, parce que là, vous allez avoir un avis d'expert à savoir si on devrait aller plus loin, si on devrait essayer d'autres thérapies. Au Québec, on a la chance d'avoir beaucoup de cliniques d'insuffisance cardiaque. D'abord, en général, on réfère en cardiologie pour qu'eux évaluent la nécessité de référer à des cliniques d'insuffisance cardiaque ou de greffe cardiaque.
On va changer un petit peu là, de sujet. On reste en insuffisance cardiaque, mais on va parler de ceux qui ont une fraction d'éjection normale, qui sont à peu près la moitié des patients qu'on voit dans nos salles d'urgence à Montréal. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il y a de l'aide pour ces patients-là?
Oui, donc je vous ai parlé des SGLT2 inhibiteurs. Les études vont sortir très bientôt pour ça, puis on a de l'espoir avec ces médicaments-là pour eux. Maintenant, pour les fractions d'éjection préservées, on sait qu'on a beaucoup de comorbidités et qu'il faut regarder les causes. Donc, ça peut être l'arythmie qui est mal contrôlée, comme la fibrillation auriculaire. Ça peut être une maladie valvulaire, des sténoses aortiques qui sont modérées, combinées avec un peu d'insuffisance mitrale, un peu d'insuffisance tropispidienne, un peu d'arythmie, et un ventricule un peu raide, donc une dysfonction diastolique. Tout ça va faire que notre patient va présenter de l'insuffisance cardiaque. On se rend compte aussi que dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, on a beaucoup de maladies coronariennes ou de maladies microvasculaires sous-jacentes. Ça peut être le cas des diabétiques, par exemple. On peut avoir des hypertensions mal contrôlées, une cardiopathie hypertensive est très fréquente pour les étiologies de l'insuffisance cardiaque. Je peux ajouter qu'on ne devrait pas appeler une sténose aortique sévère insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, bien que c'est vrai au total. Ça, c'est une insuffisance cardiaque causée par la maladie valvulaire. Donc, la fraction d'éjection est très souvent normale, au moins au début, mais qu'elle peut se détériorer rapidement, par exemple, dans le cas d'une sténose aortique sévère.
Merci encore. J'ai une dernière question avant de vous laisser partir. Est-ce que le diabète par soi-même peut causer une cardiomyopathie?
Il y a des gens qui ont débattu ça, mais évidemment, la notion de cardiopathie diabétique existe. Et de mon côté, je pense que c'est vrai. Il y a des études animales. Et il y a beaucoup de choses chez l'humain. On s'aperçoit que les biomarqueurs, que le métabolisme n'est pas le même chez les diabétiques que chez les non-diabétiques qui vont présenter de l'insuffisance cardiaque. On s'aperçoit aussi que certains médicaments pourraient être plus bénéfiques chez les diabétiques avec une fraction d'éjection préservée, comme par exemple les antagonistes de récepteurs minéralocorticoïdes. Donc, la cardiopathie diabétique, oui, à mon sens, ça existe et il y a beaucoup de maladies microvasculaires probablement là-dedans aussi.
Docteur Omera, merci beaucoup pour ces réponses, ces éclaircissements. Merci beaucoup de nous mettre à jour sur les dernières recommandations des lignes directrices canadiennes. Et je vous remercie pour votre temps. Passez une belle journée.
Merci beaucoup, Dr. Trudeau, de m'avoir invité. Je pense que c'est très, très important que les gens qui traitent les patients en première ligne soient à l'affût d'insuffisance cardiaque et puissent bien les traiter, connaître surtout la base là, au niveau du dépistage et des traitements. Merci infiniment.
Alors voilà, nous espérons que cette discussion vous a plu et surtout qu'elle vous aidera dans la prise de décision dans votre pratique clinique. Merci.